Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. C'est très important. Avec tout à l'heure Arnaud Burliga pour une balade dans le Bordelais, le Vino Quiz aussi pour gagner un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène, tout va bien depuis hier?
Tout va très bien. Je passe un très bon week-end.
En pleine forme hier soir. Enfin, hier soir, j'en sais rien, mais hier midi, ça, j'en suis
ensemble,
certain.
Alain Marty, hier soir.
Oui, c'est vrai. David Cobol, oui, la ressemblance est frappante. David Cobol, aussi le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David.
Je précise que nous n'étions pas ensemble hier soir non plus.
Et pourtant, la ressemblance est aussi frappante. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio, donc spécial dimanche, accueil par téléphone, Florian Beck-Hartweg. Bonjour Florian.
Bonjour.
Alors, vous êtes en Alsace et votre histoire débute en 1525. Alors, nous, on connaissait 1515, mais grâce à vous, on fait 1525. Racontez-nous.
Tout à fait. Bah là, en Alsace, hein, c'est vrai que les historiques sont bien chargés en général. Et effectivement, on fait du vin dans la famille Beck, ici à Dambach-la-Ville, en centre Alsace, depuis 16 générations, 1525.
Oh, je crois que c'est peut-être un record, David, d'aborder une Vino Sud Radio. Non, je ne pense pas qu'on ait eu plus que... Combien de générations, vous dites, Florian?
15.
16 générations.
Ouais, 16 générations. Non, mais c'est extraordinaire. La longévité des familles sur les mêmes parcelles, pas toujours les mêmes parcelles, mais les mêmes régions en Alsace, malgré tous les aléas,
bien sûr,
historiques, bien sûr, que cette région a connus, c'est assez exceptionnel, je trouve.
Oui, c'est vrai. Ouais. Vous voyagez un petit peu. Vous sortez un peu d'Alsace quand même, Florian? Vous vous baladez un petit peu, vous sortez, hein? Oui.
Bien sûr.
Hélène.
Mais je pense qu'effectivement, ça a quelque chose lié à toutes ces invasions, un coup de l'Est, un coup de l'Ouest, et à cette région qui a changé souvent de nationalité. En fait, leur seule façon de s'accrocher, c'était de rester sur leur terre et de ne pas en bouger. Donc en disant, bon, on va attendre que ça passe, on va attendre que les gentils reviennent.
On boit un petit coup avec modération,
voilà,
un petit coup.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc, comme une moule sur un poteau.
Il y a toujours cette dualité en Alsace, hein, entre le fait de rester bien ancré dans son terroir et fier de ses valeurs, mais aussi très ouvert et de voir les choses changer, évoluer, changer de pays, etc. Et donc, on a toujours les deux aspects en même temps, mais ça nous permet de garder notre culture, notre identité, nos terroirs au plus profond de nous-mêmes.
Hélène ?
Absolument. Alors, bon, il y a donc 16 générations, mais on va se concentrer juste sur la vôtre et puis celle d'avant, vos parents, Yvette et Michel, qui sont à la retraite depuis 2010, mais qui ont été un peu des précurseurs dans la région, puisque dès le tout début des années 80, ils étaient très investis dans le bio, à une époque où c'était beaucoup moins à la mode que maintenant. Et puis, vous avez vraiment suivi cette piste-là aussi.
Oui, tout à fait. Alors, le passage en bio complet du domaine date de 2008, hein, mais effectivement, mes parents avaient déjà enherbé les vignes avant ça, et ils ont maintenu les haies, les murets, les talus, hein, tout ce qui, à cette époque-là, était en général banni pour laisser place à la mécanisation, à la simplification. Et c'est vrai qu'ils ont toujours essayé de respecter au mieux l'écosystème. Et donc, on est revenu progressivement de plus en plus vers ces valeurs-là, et on s'est basé sur ce travail qu'ils ont initié dès les années 80 pour pouvoir de plus en plus facilement se tourner vers le bio dans la totalité avec des pratiques en biodynamie et de plus en plus poussées sur la santé des sols. Et c'est vrai que le fait d'entamer ce travail il y a déjà très longtemps nous permet de pouvoir pousser la démarche de plus en plus loin parce que bien sûr plus les sols sont vivants et plus les écosystèmes sont préservés et complets et plus on peut se permettre d'aller plus loin dans la démarche, d'abandonner l'ensemble des produits et de retrouver des vignes en bonne santé.
Alors vous allez même tellement loin dans le bio, la biodynamie et des sols en parfaite santé que votre épouse Mathilde expérimente les cultures légumières dans les vignes. Donc ça marche bien les carottes et les raisins ?
Tout à fait. Alors les carottes, pas forcément. On a fait des essais déjà sur pas mal de plantes. C'est vrai qu'il y a une dimension nourricière de l'agriculteur, du paysan qui nous parle beaucoup et qu'elle ne répond pas forcément en faisant du vin, même s'il a d'autres rôles sociétaux. Mais effectivement, il y a l'inconvénient que les sols maraîchers sont en général des sols très riches et humides, contrairement aux sols viticoles qui sont très pauvres et secs. Donc on travaille plutôt sur des variétés très rustiques et des plantes qui n'ont pas des grands besoins, notamment les légumineuses, des pois ou des choses comme ça, des radis qui sont assez rustiques, voilà, des choses de ce type.
David Cobbold, dites-nous là, une carotte, ça marche bien qu'un gewürz ou un riesling, qu'est-ce que vous en pensez là, ou éventuellement des petits pois?
Je ne suis pas spécialement carottophile, mais... Ouais.
La question n'a pas de bonne réponse, en fait, David.
Non, mais les vins blancs d'Alsace avec les légumes, ça peut très bien fonctionner.
Les asperges, par exemple, est-ce que ça marche?
Je
ne
suis pas végétarien. Les asperges, c'est plus difficile. Là, je conseille plutôt le muscat parmi la grande gamme de.
Ou une bière, éventuellement.
Ou une bonne bière, oui.
Hélène
Florian, vous êtes essentiellement, enfin, votre famille est essentiellement implantée sur le grand cru Frankenstein. Racontez-nous, c'est le granit à l'état pur, hein?
Tout à fait, c'est le terroir phare du village et toute la montagne qui surplombe le village de Dambar-la-Ville. En fait, c'est un gros bloc de granit, donc c'est vraiment la roche-mère granitique qui se décompose en surface pour donner vraiment ce qu'on appelle une arène granitique. Donc c'est vraiment un sol qui est directement issu de la décomposition de cette roche-mère. Donc c'est du pur caillou, du sable, de la roche-mère granitique. Et donc ça marque évidemment très fortement les vins. Et donc, il y a plusieurs petites collines et expositions. Et les belles parties qui sont bien dans la pente, exposées sud-sud-est, sont classées Grand Cru Frankenstein et donc portent en eux la marque de ces sols granitiques.
Ça fait un peu peur, Grand Cru Frankenstein, quand même, non? On n'a pas un peu les dents qui poussent les nuits de pleine lune par chez vous, non?
Disons que pour une fois, on retient le nom d'un grand créateur. Là, on peut pas.
C'est vrai. Autant pour moi, allez, voilà, sur mon museau de Parisienne, vous avez bien raison, effectivement. C'est tout à fait juste. Alors, justement, sur ce grand cru, donc vous réalisez évidemment toute une variété de vins. Ça aussi, c'est une grande particularité alsacienne. Vous vinifiez tous tellement à la parcelle que on trouve souvent chez les vignerons alsaciens 10 voire 15 cuvées quand c'est pas une vingtaine. C'est votre cas aussi, je crois.
C'est sûr, c'est un peu issu de notre double culture, puisque il y a la culture plutôt des vins liés au terroir et au lieu à la française, notamment la bourguignonne qu'on connaît bien aujourd'hui, et plutôt la culture variétale liée au cépage, plutôt du côté anglo-saxon ou germanique.
Au germanique. David Cobbold, un commentaire peut-être, un commentaire, oui. David, sur les propos de Florian concernant la diversité et la double culture.
Mais c'est tout à fait vrai, et on voit ce reflet même dans les cépages, où une partie des cépages viennent de l'Est, de l'Allemagne, voire de plus à l'est, Sylvaner, Gewürztraminer et Riesling. Et puis l'autre partie est tout à fait bourguignonne, c'est toute la famille des pinots. Les pinots blancs, les pinots gris, les pinots noirs. À propos, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'avancement du dossier du pinot noir devant être accepté parmi les cépages autorisés en grand cru?
Ouais, alors c'est un dossier qui est en bonne voie, pour trois grands crus du moins. Alors c'est dommage que pour l'instant ça se limite à trois grands crus.
Ben oui.
C'est des dossiers qui ont toujours beaucoup d'inertie, pour plusieurs raisons, adaptation entre les critères et la réalité du terrain, inertie politique, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui devrait se faire et je pense que c'est tout à fait justifié. Alors notre grand cru, le Frankenstein, n'en fera pas partie, bien qu'il fasse des très grands rouges. Mais malgré ça, je serais très très content pour les collègues de ces trois grands crus quand ça arrivera, parce que c'est tout à fait logique et mérité.
Les prix de vos vins, Florian, on est sur quelle gamme de prix pour le Pinot Noir, par exemple, dont vous parlez, qui effectivement est de bonne facture, si je puis dire. Combien ça coûte?
Oui, sur le grand cru, on est aux alentours des 18 euros. Et pour nos vins les plus classiques, les plus légers, on est vers les 8 euros.
Oui, David, c'est quand même très raisonnable. Oui. On peut vraiment prendre un pied en toute modération.
Pour
mais
des vins de
un
très haute
doux,
qualité,
quoi.
Je trouve que l'Alsace fait de très grands vins.
Ah oui.
Blancs et
rouges. Ils sont hyper sympas.
Oui.
Hélène?
Et effectivement, qui sont souvent très accessibles. J'ai envie de parler aussi de vos vins que vous qualifiez vous-même d'originalité, notamment toute votre gamme qui s'appelle Tout Naturellement. Racontez-nous.
Oui, alors c'est vrai qu'on est, c'est la suite logique de notre travail à la vigne, très clairement. On travaille pour avoir des raisins qui sont parfaitement fins, mûrs, concentrés, structurés, pleins de vitalité. Et du coup, c'est tout à fait logique de respecter derrière ce travail en cave. Et donc d'ajouter le moins d'intrants possible. C'est pas forcément un but ultime d'en mettre toujours zéro, mais en tout cas quand on a les matières qui tiennent, les structures pour que les vins puissent se garder dans le temps, évoluer favorablement, rester bien purs, bien droits, sans avoir besoin d'ajouter d'intrants, et ben voilà, évidemment on s'en prive pas.
David Cobbold, c'est quoi un intrant? David, c'est quoi un intrant?
Un intrant, c'est un produit qu'on rajoute au vin, ou soit en cours, soit après la fermentation.
D'accord, c'est pas naturel, c'est ça, on le met en plus, c'est ça?
Oui, on le met en plus, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes raisons. Et la tendance, c'est d'en mettre le moins possible. Mais ce qui est un prérequis absolument nécessaire, c'est d'avoir des raisins en parfait état sanitaire et travailler dans des conditions d'hygiène impeccables. Sans ça, il y a toutes sortes de risques. Je pense que Florian peut élargir sur ce sujet.
Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que travailler en vin nature, c'est beaucoup moins de travail en cave, puisque finalement on n'intervient pas. Mais par contre, il faut pas oublier que c'est par contre beaucoup plus de travail en vigne, pour effectivement éviter que les vins subissent des déviations bactériennes ou bien s'oxydent prématurément. Et ben avant tout, évidemment, il faut des raisins parfaits, bien sains, bien structurés, qui peuvent donner naturellement la capacité de garde sans avoir besoin de devoir rajouter des additifs pour permettre ça, quoi.
Hélène ?
Alors c'est vin nature, donc vous en avez un qui est tranquille et puis l'autre qui est en pétillant. Et en fait, ces vins-là, vous avez coutume de dire, notamment dans vos posts Facebook, qui sont toujours très très longs, très détaillés et très intéressants. Je renvoie à votre page tout ça, c'est une question de respect des raisins, respect du sol, bien sûr, respect des dégustateurs de vos vins, respect pour le travail des anciens. C'est un mot qui revient très souvent dans vos posts.
Oui, tout à fait. C'est une notion de respect, d'humilité aussi, de pas penser que la main de l'homme peut tout faire ou tout transformer. Être à l'écoute de tous les éléments autour, que ce soit la nature, les traditions, les collègues autour, etc., les dégustateurs évidemment. Et donc on essaye de faire ça au mieux. Et donc il y a ces deux cuvées qui sont vinifiées en nature et qui revendiquent le fait qu'ils sont en vin nature, parce que ça fait vraiment partie de l'identité de ces vins. C'est des terroirs qui sont moins marquants et qui sont plus marqués par la vinification. Et par contre, toute notre série de vins des différents terroirs, elle est vinifiée, tous les vins qui sont secs sont vinifiés en nature aussi.
Oui.
Mais sauf qu'on ne le met pas en avant, parce que c'est pas forcément ça le caractère du vin, c'est avant tout des vins qui reflètent leur terroir. Et après, le fait de le faire en nature, c'est simplement une méthode de travail qui permet
de le
faire.
C'est un choix du vigneron, c'est un choix du vigneron. Une philosophie.
Voilà, c'est ça. Et c'est pas forcément quelque chose de commercial non plus, mais simplement, c'est pour nous la meilleure méthode dans ces cas-là et dans ces conditions-là pour exprimer au mieux le terroir.
Merci beaucoup, Florian. Merci également à vous, Hélène et David. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Ville Quiz et puis des coffrets de Bandit de Loire et de Divine à gagner.
Sud Radio Invino, midi 30-13h, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter pour nous signaler vos vignerons chouchous. On peut se retrouver sur la page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous parler donc des vignerons David Cobold. Le vidéo quiz, c'est maintenant.
C'est maintenant. Alors, la question, dimanche 24 janvier, la question du week-end.
Aujourd'hui, oui.
Quel est le titre du dernier ouvrage du docteur Marc Lagrange ? Réponse A, les écrivains de Champagne. Réponse B, les auteurs des spiritueux. Et réponse C, les vendeurs de vaches.
Voilà.
Réfléchissez bien et puis courez tout de suite vers le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et vous cochez A ou B ou C.
Voilà, et qu'est-ce qu'on gagne, David ?
Eh bien, vous gagnez 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire. Vous savez, ce long fleuve, le plus long fleuve
en
France.
Qui va jusqu'en Afrique, parfois, quand on prolonge.
Oui, ça, avec les courants, on ne sait jamais. Un coffret Divine et le livre Un naturisme et spirituel en France et dans le monde, aux éditions Erol.
Merci beaucoup, David Cobold. Invino, Sud Radio accueille un nouvel invité par téléphone, Arnaud Burliga. Bonjour, Arnaud.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes situé à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Émilion, là, c'est ça exactement ?
C'est ça, tout à fait. Pour être exact, à 12 kilomètres.
À 12 kilomètres ? Ah bah oui, donc c'est un peu plus d'une dizaine, quoi. C'est... Bon, bah, très bien. Donc, vous avez un pèlerinage à l'église tous les jours ?
Vraiment, pas tous les jours.
Ouais, on sent le type qui ne va pas souvent à l'église, quoi. Hélène ?
Alors, effectivement, Arnaud Burliga, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous êtes à la tête de pas moins de 4 châteaux à Bordeaux. La Lande de Talleyrand, le Château Paulin, Château Landrieux et Château Josse. 4 châteaux, près de 60 hectares. Donc, on est dans l'entre-deux-mers, Béchac et Caillot, Madirac, Montussan. Oui. Alors, comment ça s'est fait, ces 60 hectares ? Vous êtes né avec ?
Moi non, mais mon père a commencé à s'intéresser vraiment au vignoble bordelais en 82. Et par la force des choses, en fait, il était dans une autre entreprise auparavant, il faisait du foie gras et du canard.
Ça marche très bien avec le Bordeaux aussi.
ça marche très bien, oui, c'est vrai. Et en fait, par la suite, il a trouvé avec un associé 8 hectares en fermage. Et petit à petit, en fait, ça a grandi jusqu'à aujourd'hui, arrivé à une soixantaine. Ouais. Voilà, donc une aventure qui a fait que moi, je suis arrivé sur mes... je devais avoir 3 ans. Donc, on peut dire que je suis né dedans, mais pas tout à fait.
Bah, d'autant moins que vous avez fait beaucoup de choses. Vous n'êtes pas resté effectivement les deux pieds au domaine depuis toujours, puisque après vos études d'œnologie, on vous retrouve maître de chais dans l'Oregon.
C'est ça, oui.
Sur quelle exploitation?
Alors, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Sylvan Ridge et Château Lorraine, ouais, qui sont toutes les deux situées à côté de Eugene. Ouais. Voilà.
Et puis en 2005, le retour aux sources, au bercail, ouais, vous retrouvez la propriété familiale. Et alors, comment on fait pour gérer quatre domaines?
Oh ben on fait alors c'est mon quotidien, donc en fait ça n'est même plus une question pour moi, ça se fait naturellement, je dirais qu'en fait on a différents terroirs, on a différents vignobles, on a différentes cuves, on a différents chais.
Et vous avez vous avez le don d'ubiquité aussi pour être partout en même temps.
Ben en fait j'arrive souvent à être à la vigne et au chais en même temps, mais c'est par téléphone et à pied dans les vignes.
D'accord. C'est bien la technique moderne pour ça.
Ça marche bien, oui.
Okay.
C'est vrai ça fonctionne.
Voilà, les vignobles ne sont peut-être pas très éloignés les uns des autres non plus.
Non, sauf Madeira qui est un peu plus loin, mais c'est justement là que je pilote un peu plus mes salariés sur le chai quand je suis dans les vignes là-bas.
À combien de bouteilles total, dites-nous?
Environ 350 000 à l'année à peu près. D'accord. Entre 350 et 400.
Ah, et vous ne buvez pas tout seul, vous en vendez un peu. Là, vous les vendez où, vos bouteilles?
J'essaye d'en vendre, oui, parce que ces derniers temps, c'est un peu plus complexe.
Vous les vendez où, en France, à l'international?
On les vend principalement sur le Nord Europe. Pas mal en France aussi, sur beaucoup de cavistes et de restaurateurs. Et après, oui, on a eu des marchés chinois, on n'en a plus en ce moment. On a eu pas mal de marchés asiatiques. Et on est en train de lancer à nouveau un marché sur les États-Unis, là,
ce moment. Vos appellations sont les classiques de la région, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Entre-deux-Mers. Vous avez aussi un clairet et un rosé.
Tout à fait.
Qui doivent être en ce moment dans les cuves, ça se présente bien?
Ça se présente très très bien en 2020. Je pense qu'on a de la chance depuis 18, qui était vraiment exceptionnel, 19 et 20. On a vraiment des millésimes qui tiennent la route et voilà, depuis 17, je peux dire qu'il y a rien à dire. On a vraiment des millésimes superbes, les uns à la suite des autres.
Et alors, vous avez des nouvelles cuvées 2020 qui vont être en monocépage?
C'est ça, oui. C'est la petite nouveauté de cette année, c'est qu'en fait, j'ai planté petit à petit des petits verres d'eau, des Malbecs, enfin des Malbecs on en a toujours eu, mais j'ai planté des petits verres d'eau et donc l'idée est née il y a, on va dire, entre 5 et 10 ans, entendant parler de cépages résistants, de plein de différentes nouveautés qu'on va développer sur les vignobles. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire des cuvées monocépages qui pourraient, et qui, à mon avis, satisferont plus de gens par leur simplicité ou par leur authenticité. Il y a plein de possibilités avec les cépages.
David Kebol, monocépage à Bordeaux, c'est original, ce dont nous parle Arnaud? Il y a d'autres régions viticoles françaises où c'est
bien
classique.
Sûr, alors, chaque région a ses règles. Je trouve que la sagesse de Bordeaux, c'est de laisser ses règles ouvertes aux vignerons. C'est-à-dire qu'on peut faire la pratique la plus générale de très loin, c'est l'assemblage de différents cépages, sachant qu'il y a de mémoire 5 blancs et 5 rouges autorisés dans les différents appellations. C'est 5 ou 6, même pour les blancs.
Oui, c'est très compliqué, mais...
C'est très compliqué, mais vous avez le droit de faire... Vous avez le droit de faire avec 2, avec 3, avec 4, avec 5, ou avec un seul, et ça reste Bordeaux, à condition de rester dans la liste autorisée.
Tout à fait, c'est ça.
Donc à 100% Malbec ou à 100% petit Bordeaux, petit
ça reste un Bordeaux.
Ça restera un
Bordeaux. Quoi, oui.
D'accord.
Oui.
Alors qu'effectivement, on se dit, ça pourrait être un Cahors. Eh bien non.
Il y avait beaucoup plus de Malbec autrefois dans le Bordelais. Je me souviens d'avoir lu les archives du Château Latour à Pauillac jusqu'à 1840 quand l'oïdium est arrivé, ou le mildiou, je ne sais pas lequel est arrivé le premier, parce qu'il n'aime pas beaucoup l'humidité, ce cépage-là. C'était le cépage dominant à Château Latour, et ça, il n'y en a plus à Château Latour. Donc ça, c'est un cépage qui a régressé à Bordeaux, mais qui était autrefois très très planté.
Oui, oui, et surtout dans le coin du Blayais-Bourget aussi.
Oui, alors c'est là où c'est resté encore le plus présent. Ouais. Il y a un tout petit peu à Saint-Émilion et en longeant sur la rive
et
droite.
Et dans mon coin, voilà, quelques-uns irréductibles continuent aussi.
C'est bien, oui. C'est bien.
Alors ces cuvées en monocépage, sous quel label est-ce que vous allez les vendre? Puisque vous avez, on le disait, vous avez quatre châteaux. Lequel va commercialiser ces cuvées?
Alors je dirais que c'est pour nous celui qui nous tient, on a deux châteaux qui sont nos têtes de proue. Donc on a le château Paulin et le château Léon de Talleyrand. Et je pense que celui-ci va être fait sur le château Léon de Talleyrand parce que c'est la marque qu'on diffuse le plus.
D'accord. Et c'est une marque que...
Je suis sûr même.
C'est la marque que l'on retrouve le plus en France également, puisque vous disiez que vous vendiez beaucoup à l'export. C'est celle qu'en France on trouve le plus?
Tout à fait, oui.
Tiens, d'ailleurs, on ne vous a pas posé la question de votre distribution, plutôt caviste indépendant, oui. Grande surface également.
Alors, on a un château qui est spécifiquement, lui, vendu en grande surface, c'est le château Landrieux. Mmh. Et après, le château de Talleyrand et le château Paulin ne sont vendus qu'en caviste indépendant. Et aussi, on a pas mal travaillé avec Nicolas, mais pas en direct.
D'accord.
Enfin, en direct, je veux dire, pardon.
En direct.
Justement, local.
Localement. David Cobold ?
Moi, je suis très intéressé par les noms. Alors, premier nom sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est Talleyrand. Est-ce qu'il y avait une connexion avec...
Tout à fait, oui.
Il y avait une connexion avec Talleyrand, personnage qu'on a décrit comme un paquet de merde dans un bas de soie.
C'est ça.
C'est assez chic.
C'est un peu c'est boiteux extrêmement comme explication,
mais c'est du bourre anglais. Je comprends le Brexit. Hein,
et vraiment, c'était aussi le boiteux, effectivement. Donc, il y avait une connexion avec ce lieu.
Oui, en fait, c'est la famille Talleyrand, elle fait partie de ce lieu. Uh-huh. Donc, en fait, il y a un lieu dit, d'ailleurs, qui s'appelle Talleyrand chez nous. D'accord. Et en fait, quand on regarde, il y a une autre propriété qui s'appelle le domaine de Talleyrand qui est à côté. Et en fait, quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu une famille Talleyrand. Mais de toute façon, dans le Gers, oui, ça, évidemment, mais ici aussi. Et ce qui fait qu'en fait, on constate qu'il y a des Talleyrand avec deux L, un D, sans D, avec... Enfin voilà, ça, c'est les problèmes...
Il était aussi
tous les chemins mènent à Talleyrand.
Il était aussi propriétaire de château Aubryon à un moment donné.
Oui, mais il y a un sacré long moment.
Il y a peu de temps. Quoi. Dites tout, vendez également des bagging box. Là, ça marche bien, ça, les bagging box.
De mieux en mieux. De 10 litres, oui, là, avec les événements récents, oui, de mieux en mieux, je dirais.
Ouais. David Cobold, ça maintenant c'est rentré dans les habitudes. Avant, on avait un petit peu honte, on planquait un peu sur Bag in Box. Oui. Là, maintenant, on assume. Oui.
On assume, et à juste titre, parce que ça se conserve très bien. Ça permet de tirer, c'est très pratique. Vous tirez un verre, deux verres, le nombre de verres que vous avez, pour lequel vous avez des convives, et voilà. Et ça reste. Moi, je l'ai testé pendant un été en laissant un Bag in Box en vidange du moment où c'est étanche. Le vin ne bouge pas.
En rosé, en blanc, rouge.
C'était un Bordeaux rouge.
C'est un Bordeaux rouge, quoi. Mmh. Hélène.
Arnaud Burliga, vous parliez des événements récent, effectivement, vous faisiez allusion au confinement et au fait que, effectivement, en confinement, c'est bien pratique, le bag in box, hein, on l'achète et puis, même si, désolé pour le caviste, on ne revient pas chez le caviste pendant 10 jours, au moins, on a son bag in box pendant ce temps-là. Vous avez quand même encouragé vos clients à consommer plutôt des bouteilles pendant le confinement, parce que vous avez eu un très joli geste qui était d'offrir une bouteille à chaque personne qui se manifestait, donc c'était l'anniversaire pendant le confinement. J'ai trouvé ça super sympa.
Mais on essaie de trouver des petits gestes commerciaux et des petites attentions pour nos clients et voilà tout notre entourage. On est des gens qui fonctionnent d'une manière très simple et on essaye de communiquer simplement, voilà.
Bon, dites tout. Vous avez un site internet peut-être, Arnaud, pour prendre enseignement sur vos vins. Alors, votre vignoble aussi.
Donc c'est wawawaburliga.com.
Burliga.com. Burliga s'écrit B-U-R-L-I-G-A. Sinon, donc on peut venir vous voir à la propriété. Vous dites bonjour, vous êtes sympa comme vous êtes sympa au téléphone.
Ça dépend,
ou pas?
Mais j'envoie les chiens, mais non ouais, en général.
En plus, on l'adore les deux également, c'est très bien.
Bon. C'est exactement ça. En fait, non, on n'en a pas de chiens.
Bon. Merci beaucoup, Arnaud. Non, bravo, bon vent pour les multiples projets. Hein, et pour la vente des 350 000 bouteilles par an, faut y aller. Merci également à Hélène et David. Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.